Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 34. Deux Picards. Pendant 10 minutes ou un quart d'heure, Jacques se promena de long en large devant la grille. Le brave garçon cherchait un prétexte quelconque, bon, passable ou mauvais, à l'aide duquel il lui fut possible de pénétrer dans cet intérieur si bien clos. Or, son imagination lui faisait défaut de la manière la plus complète. Il ne trouvait rien. Lassé de cette infructueuse préoccupation, Jacques fit un geste qui signifiait clairement « Ah bah, remettons les choses au hasard !» Et saisissant l'extrémité de la chaînette dont nous avons parlé, il la secoua vigoureusement. Le son de la cloche retentit, clair et perçant, dans le silence de la rue. Au bout d'un instant, une porte étroite, pratiquée auprès de la grande, tourna en criant sur ses gonds rouillés, et Jacques se trouva face à face avec une façon de concierge, petit homme de 48 à 50 ans, à la figure ronde et rouge, portant une sorte de livrée un peu râpée. Jacques franchit le seuil. À 200 pas environ de la grille, et à peu près au milieu du jardin, se trouvait l'hôtel, ou plutôt le pavillon. Une avenue de charmilles conduisait au perron. Le jardin était fort vaste, nous le savons, mais il semblait complètement abandonné. Les charmilles et les ifs, jadis méthodiquement tondus par un ciseau expert qui leur donnait des formes variées, poussaient maintenant, à droite et à gauche, des jets luxuriants et incorrects. Le panais sauvage, l'ortie, la ciguë, croissaient au milieu des gazons. Une croûte épaisse et verdâtre recouvrait les pièces d'eau à moitié taries et qui servaient d'asile à des myriades de grenouilles. Aucune des statues, debout sur leurs piédestaux de granit, n'était restée intacte. À celle-ci, il manquait le nez, à celle-là un bras, à quelques autres la tête. Les mauvaises herbes avaient envahi les allées et les plantes parasites croissaient jusqu'entre les marches disjointes du perron. Le pavillon semblait n'avoir rien à envier au jardin, en fait de délabrement. Les girouettes, à demi renversées, menaçaient ruine. Les gouttières crevées laissaient l'eau torrentielle des grandes pluies couler le long de la façade qu'elle marbrait de teintes verdâtres. Volets et persiennes pendaient disloqués à des gonds décellés et chancelants. Un coup d'œil suffit à Jacques pour se rendre compte de tous ces détails. « Singulier nid d'amour !» pensa-t-il en regardant le pavillon. Cependant, le concierge fixait sur lui ses petits yeux ronds avec une expression de curiosité et d'étonnement. « Pardon, monsieur, » lui dit Jacques en le saluant avec la plus exquise politesse. « Je vous dérange peut-être. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda le concierge au lieu de répondre. Ceci fut dit d'un ton légèrement brutal. « Je suis chargé par mon maître d'une commission pour le vôtre, » répliqua Jacques à tout hasard. « Pour mon maître ?» répéta le petit homme. « Oui, je n'en ai pas. »«
Ah bah ?»
« Il y a erreur, comme vous voyez. Tournez les talons, et bonsoir. »«
Mais... »«
Bonsoir, bonsoir !» Et le petit homme, bien déterminé sans doute à n'en pas écouter davantage, poussa Jacques du côté de la porte. Ce n'était point l'affaire du jeune valet de chambre. Cependant, bon gré mal gré, il allait être exclu, lorsque tout à coup, comme un homme qui se noie, il se raccrocha à une branche.
« C'est drôle !» s'écria-t-il en se retournant.
« C'est drôle tout de même, monsieur, comme vous avez l'accent picard. »«
Ça n'est pas drôle, puisque je le suis. »«
Vous êtes picard, vous ?»«
Et franc picard ?»«
Comme moi, quelle chance, une poignée de main, pays !»
Le petit homme ne put refuser la poignée de main de Jacques. Ce dernier reprit.
« Et sans vous commander, pays, quel est votre endroit ?»«
Ypreville, près de Quesnoy. »
Comme ça se rencontre ?» Moi qui suis de sa ville, à 5 lieues de là.
Dites donc, pays, je sais au coin de la rue du Pas de la Mule un cabaret où le vin est gentil.
Si nous allions boire une bouteille.
Le petit homme parut hésiter, mais Jacques s'écria.
Ah bah, entre pays qui se retrouvent à Paris, est-ce qu'on refuse jamais de trinquer?
Allons-y donc, dit le concierge dont le visage avait dépouillé sa brusquerie d'emprunt pour reprendre l'expression bonasse et joviale qui lui était habituelle.
Tous deux sortirent et le petit homme referma soigneusement la porte derrière lui.
Je le tiens, pensait Jacques avec un indicible triomphe.
Il ignorait l'adage latin « in vino veritas », mais en bon français, il formulait à peu près l'équivalent de ce dicton en se disant « Quand il sera gris, il parlera ». Peu d'instants après, ils étaient attablés dans le modeste cabaret dont Jacques avait parlé. Le jeune homme fit venir une première bouteille de vin d'Argenteuil. À celle-ci en succéda bientôt une seconde. La santé de la Picardie et des Picards fut portée à 20 reprises et avec enthousiasme. Quand le troisième flacon eut été apporté et décoiffé, le compatriote de Jacques appuya ses coudes sur la table et dit avec un gros rire.
« Ah ça, pays, qu'est-ce que vous me contiez donc tout à l'heure ?»«
Au fait, » demanda Jacques, « qu'est-ce que je vous contais donc ?»«
Vous ne vous en souvenez pas ?»«
Ma foi, non. »«
Tête de linotte, va. »« Eh bien, vous prétendiez que vous étiez chargé d'une commission de votre maître pour le mien. »
Oui, je le disais.
Et pourquoi le disiez-vous?
Parce que c'est vrai.
Farceur.
Comment farceur?
Eh oui, quel est son nom à votre maître?
Quoique pris à l'improviste, Jacques eut la présence d'esprit de répondre. Le marquis de Chaumont.
Possible, mais une chose sûre, c'est qu'il ne vous a pas chargé de ce que vous dites.
Il m'en a chargé sans m'en charger. Ça dépend de la manière de s'entendre.
Alors expliquez-vous et entendons-nous.
Jacques venait de forger une histoire qui répondait tant bien que mal aux premières exigences de la situation. Il se hâta de la débiter.
Le marquis, mon maître, dit-il, est jeune encore.
Ah, tant mieux pour lui.
Il aime les femmes.
C'est dans la nature.
Et il est galant.
Ça fait son éloge. Il désire acheter dans ce quartier une petite maison.
Vous comprenez, pays,
une petite maison,
quelque chose de bien mystérieux, de bien isolé, pour y dénouer ses galantes aventures.
Pardieu, si je comprends, interrompit le concierge,
c'est un gaillard que votre maître.
Ajoutez à cela qu'il est immensément riche, poursuivit Jacques, et vous comprendrez qu'il désire se passer la fantaisie d'une petite maison.
À sa place, je m'en passerai deux.
C'est que je suis un gaillard aussi, moi.
Ah, mais...
Jacques reprit. Hier, pas plus tard que cela, de hasard nous a conduits, mon maître et moi, dans la rue de la Cerisaie. Monsieur le marquis s'est arrêté devant le grand mur et devant la grille de votre maison. Il a vu qu'il ne voyait rien.
Jacques, m'a-t-il dit alors, voilà qui ferait bien mon affaire. Va t'en trouver demain de ma part, le propriétaire de l'habitation qui doit être là derrière. Tu lui demanderas s'il veut me la vendre. Et tu lui diras que je la lui paierai volontiers le double de sa valeur.
Voilà ce qui fait, pays, que je suis venu aujourd'hui et que je vous ai dit que j'avais une commission de mon maître pour le vôtre. Vous voyez que je disais la vérité.
C'est exact, mon garçon, c'est exact. Je le confesse et je le comprends. Il ne s'agissait que de s'expliquer.
Maintenant, poursuivit Jacques, je pense que vous ne refuserez pas de me répondre, ainsi que vous l'avez fait tout à l'heure.
« Je ne puis cependant que vous répéter ce que je vous ai dit. »«
Vous n'avez pas de maître ?»«
Non. »« C'est impossible. »«
C'est comme ça. »«
Pourtant, la maison est inhabitée. »«
Complètement ?»«
Oui, complètement. »«
Depuis quand ?»«
Depuis 25 ou 30 ans, ma foi. »«
Et vous y vivez seul ?»«
Je n'y vis même pas. » J'occupe un petit pavillon qui se trouve dans un des angles du jardin.
Mais la maison appartient à quelqu'un.
Oui, mais ce n'est pas à mon maître.
À qui donc?
À ma maîtresse.
Qui s'appelle?
La baronne de Sélus.
Jeune?
À peu près 90 ans.
Où demeure-t-elle, cette baronne?
Pas loin d'ici, place Royale.
Vendrait-elle la maison que vous gardez?
Non.
Vous en êtes sûr?
Parfaitement.
Mais en lui offrant un bon prix.
Ça n'y ferait rien.
Pourquoi?
Elle a plus de 300 000 livres de rente, et à son âge, elle ne s'inquiète guère d'augmenter sa fortune.
C'est juste.
Juste et naturel, pays.
A-t-elle des enfants, votre baronne?
Une fille.
Et des petits-enfants?
Un seul. Mais à cette question, j'ai le gosier sec. Buvons.
De nouvelles bouteilles furent demandées. On porta de nouvelles santé, toujours à la Picardie et au Picard. Bref, au bout de fort peu de temps, le petit homme à trogne rouge était gris à ne pas pouvoir se tenir d'aplomb sur son escabeau. Il appelait Jacques son neveu et lui prodiguait les noms les plus tendres. Mais au milieu de ces divagations sans nombre, il fut impossible au jeune homme d'en tirer une seule parole qui eût l'ombre du bon sens, ni un renseignement de quelque utilité et de quelque importance. Voyant cela, Jacques laissa l'ivrogne cuver son vin. Il paya la dépense et se dirigea vers l'hôtel de la Tremblay afin de rendre compte à son maître du peu qu'il venait d'apprendre. Chapitre 35. Escalade. Il y a là quelque chose d'étrange, de mystérieux, d'inexplicable, dit Raoul après avoir entendu son valet. Es-tu parfaitement certain, Jacques, de ne t'être point trompé cette nuit en traçant cette croix rouge sur une porte? Il est presque impossible que le but des nocturnes sorties de ma femme soit cette maison délabrée et inhabitée.
Monsieur le chevalier, répondit le valet, je ne puis vous affirmer qu'une seule chose, mais de celle-là je suis certain. C'est de ne m'être point trompé cette nuit. La porte sur laquelle j'ai fait une croix rouge est bien celle qui s'est ouverte pour laisser pénétrer la chaise à porteur dans laquelle se trouvait madame de la Tremblay.
Raoul réfléchit pendant quelques minutes, puis il dit « Jacques, monsieur le chevalier, il n'est qu'un moyen pour moi de sortir d'une aussi poignante incertitude. Quel est ce moyen, monsieur le chevalier? C'est de pénétrer dans cette maison maudite. Quand? Cette nuit? C'est difficile. Il le faut. Cependant, ce n'est pas impossible. Comment faire? Escalader la muraille est, je crois, ce qu'il y a de plus simple. Cette muraille est d'une hauteur effrayante. Qu'importe la hauteur si nous avons une échelle? Et nous en aurons une bonne échelle de corde, attachée au sommet du mur par un crampon de fer. Je n'y avais pas pensé tout d'abord. Mais la chose est infiniment plus faisable que je ne le croyais. Et l'échelle simplifie beaucoup la difficulté. Mais il faudrait que cette échelle fût préparée d'avance. Je m'en charge. Aussitôt que l'obscurité me permettra d'agir, je me mettrai à la besogne. Il serait utile cependant que monsieur le chevalier voulût me donner congé jusque-là. J'ai à m'occuper de l'échelle et à faire forger les crampons. Je te laisse absolument libre. Quand rentreras-tu à l'hôtel?
Je ne le sais pas.
Il faudra cependant que nous nous retrouvions.
Si je n'ai pas revu monsieur le chevalier auparavant, je l'attendrai dans le jardin, derrière le massif de lilas, aussitôt après le départ de madame.
C'est convenu.
Monsieur le chevalier n'oubliera pas, j'espère, qu'il sera prudent et même peut-être tout à fait indispensable d'être bien armé.
Oh, sois tranquille. Je n'irai pas compromettre ma vengeance. J'y tiens plus qu'à ma vie. Je serai armé, et bien armé.
Les heures de cette journée s'écoulèrent lentes et interminables comme des siècles. De temps à autre, Raoul sentait sa tête s'égarer et se demandait s'il n'était pas le jouet de quelque abominable rêve. Mais hélas, le triste sentiment de la réalité reprenait bien vite le dessus et ne pouvait lui laisser aucun doute à cet égard. La nuit arriva. Jacques n'avait point reparu. Les choses suivirent dans la chambre conjugale leur cours habituel. Seulement, aussitôt qu'Hébé eut disparu dans le cabinet de toilette en refermant la porte sur elle, Raoul s'habilla à la hâte, ceignit une épée plus forte que celle qu'il portait ordinairement et mit dans ses poches deux pistolets chargés. Ces précautions prises, il gagna le jardin en passant par l'intérieur de l'hôtel et il ne tarda point à se trouver en présence de Jacques, qui l'attendait au lieu convenu, derrière le massif de lilas, et qui, à tout hasard, s'était muni d'une lanterne sourde. Raoul était dans un état de surexcitation extraordinaire. Un frisson nerveux agitait ses membres, et sa pâleur aurait paru effrayante si l'obscurité de la nuit n'avait point caché son visage.
« As-tu réussi ? » demanda-t-il à Jacques.
« Oui, monsieur le chevalier, » reprit ce dernier, « tout est prêt. »
« Ainsi, l'échelle de corde, elle est en place et elle nous attend. »
« Allons !»
Jacques ouvrit la petite porte et s'engagea dans la ruelle avec son maître.
Tous deux marchèrent si rapidement qu'en moins de 10 minutes, ils arrivèrent auprès du grand mur qui ceignait la propriété de la baronne de Sélus. Ils dépassèrent la porte par laquelle on venait d'introduire la chaise à porteurs. 50 pas plus loin, Jacques s'arrêta et dit « Monsieur le chevalier, c'est là !» Raoul ne répondit rien. On entendait ses dents claquer violemment les unes contre les autres. Et cependant, nous savons que Raoul de la Tremblée n'avait pas peur. Jacques prit les derniers échelons de l'échelle de corde qui pendait à la muraille, et le tendant de son mieux, il dit à demi-voix « Montez, monsieur le chevalier, et quand vous serez en haut, asseyez-vous sur le couronnement de la muraille, et attendez-moi. » Raoul fit machinalement ce que lui disait son valet. Jacques le rejoignit, attira l'échelle à lui, l'accrocha de nouveau, mais cette fois du côté du jardin, et descendit le premier. Raoul le suivit, et tous deux se dirigèrent à travers les plates-bandes incultes vers le pavillon. On n'entendait pas le moindre bruit. On aurait pu croire que la maison était réellement déserte, car aucune lueur ne se montrait derrière les vitres de ses fenêtres. Cependant, à coup sûr, Jacques ne s'était point trompé, car le maître et le valet faillirent se heurter contre la chaise à porteurs qui se trouvait devant la porte de derrière du pavillon. « Vous voyez, monsieur le chevalier, » dit Jacques. Et en même temps, ce dernier aperçut une faible lumière qui s'échappait, non pas du rez-de-chaussée, mais du soupirail d'une pièce demi-souterraine. Il se pencha, et par ce soupirail, il vit deux hommes, les porteurs de chaises sans doute, attablés devant un broc de vin et commençant une partie avec des cartes sales. La porte dont nous avons parlé restait entr'ouverte. Raoul la poussa et se trouva dans l'intérieur de la maison. L'obscurité était profonde et le silence complet. Jacques découvrit à demi l'âme de sa lanterne sourde et fit jaillir un rayon lumineux, suffisant pour éclairer à peu près la pièce. C'était une sorte de vestibule très exigu et donnant accès sur un escalier conduisant au premier étage. Les deux hommes montèrent lentement et en ayant soin d'étouffer le bruit de leurs pas sur les marches sonores. En haut de l'escalier se trouvait une porte. Cette porte était fermée, mais la clé était à la serrure, en dehors. Raoul appuya son oreille contre le panneau, écouta et n'entendit rien. Vraisemblablement, derrière la porte, il n'y avait personne. Raoul ouvrit. La pièce dans laquelle il pénétra avec Jacques était une vaste bibliothèque dont les 4 murailles disparaissaient depuis le parquet jusqu'aux corniches sous des livres poudreux. Beaucoup de ces volumes gisaient à terre. D'autres étaient entassés pêle-mêle sur une immense table de chêne placée au milieu de la bibliothèque. En face de la porte par laquelle nos personnages étaient entrés s'en trouvait une autre. Au-dessus de cette porte, l'architecte avait fait pratiquer une de ces ouvertures rondes et vitrées que nos ancêtres appelaient œil de bœuf. Une lumière vive et intermittente s'échappait par cet œil de bœuf. Chapitre 36. Le cabinet magique. Le regard de Raoul se fixa avidement sur l'ouverture dont nous venons de parler. « Ils sont là » murmura-t-il. « Ils sont là !» Un bruit de voix, semblable à un chuchotement léger, se faisait entendre distinctement. Raoul s'approcha et prêta l'oreille. Dans ce moment, il reconnut à n'en pouvoir douter la voix si douce d'Hébé. Peut-être, dans le premier mouvement de sa juste fureur, allait-il ouvrir brusquement ou briser cette porte. Mais Jacques devina ce qui se passait dans l'esprit de son maître, et lui touchant doucement le bras, fit un geste qui signifiait « Attendez !» En même temps, il prit une des échelles doubles qui se trouvait dans la bibliothèque et servait à aller chercher les livres placés sur les rayons les plus élevés, et il plaça cette échelle de façon à ce qu'il fût aisé d'arriver au niveau de l'œil de bœuf. Raoul s'élança. Il regarda et il vit. Il vit un spectacle étrange, indéfinissable, fantastique en quelque sorte. La pièce sur laquelle il attachait ses regards ardents était de moyenne grandeur, sans fenêtre, étendue d'une vieille tapisserie flamande qui représentait avec une effrayante naïveté les principales scènes de la danse macabre. Une table carrée, en bois d'ébène, supportait une foule d'objets incohérents et dont rien n'expliquait la réunion. c'était tout l'attirail de l'orgie mêlé à celui des sciences occultes et cabalistiques. Ici, des coupes, des flacons de vin, des liqueurs, une guitare, un tambour de basque. Là, des hiboux empaillés, une tête de mort, des instruments bizarres, des parchemins constellés de signes inconnus, des livres de magie. Les 8 bougies de 2 candélabres éclairaient ce pêle-mêle inouï. Auprès de la table, il y avait un réchaud de bronze rempli de charbons enflammés. En face de la porte, assises sur des chaises d'ébène à dossiers de velours rouge, se trouvaient 2 personnes. C'était Hébé, d'abord, puis un homme que Raoul se souvint aussitôt d'avoir vu plus d'une fois. Cet homme, qu'on nommait le marquis d'Avisac, passait pour être fort riche et pour consacrer sa vie entière à la recherche d'un certain nombre de secrets de la science hermétique. Il était jeune encore et très beau, quoique d'une grande pâleur, que rendait remarquable son costume entièrement noir. Assis à côté d'Hébé, ainsi que nous le disions il n'y a qu'un instant, le marquis d'Avisac, un de ses bras à demi passés autour de la taille de la jeune femme, se penchait avec elle sur un immense in-folio à fermoir d'argent dont il semblait étudier les pages. De temps à autre, le marquis prenait dans un vase d'argent quelques grains d'une substance brune qu'il jetait sur le brasier. Aussitôt, une flamme bleuâtre s'élevait presque jusqu'au plafond en décrivant les brusques zigzags d'un éclair. Aucune fumée ne suivait cette flamme. C'est d'elle que provenaient ces lueurs intermittentes qui avaient tout d'abord frappé la vue de Raoul. Parfois, Hébé interrompait sa lecture pour interroger. Le marquis lui répondait gravement, après avoir consulté quelques-uns des volumes ou des parchemins épars autour de lui. Cela dura près d'une heure. Au bout de ce temps, la leçon fut finie sans doute, car le marquis ferma son grand livre, prit un flacon de vin de Syracuse, remplit 2 coupes, en présenta une à Hébé et vida l'autre d'un seul trait. Un grand changement se fit alors dans le visage de cet homme. L'expression habituellement grave et austère de ses traits se modifia. Ses yeux, tristes d'ordinaire et méditatifs, brillèrent d'un feu vif dans leurs orbites profondes. Sa bouche sérieuse devint sensuelle. Le langage du plaisir sans frein remplaça sur ses lèvres celui de la science. Il fit un signe à Hébé qui lui apporta la guitare et prit elle-même le tambour de basque. Le marquis, excellent musicien, passa son doigt sur les cordes et préluda, par un accord bizarre, qui retentit jusqu'au fond du cœur de Raoul, témoin invisible de toute cette scène. Puis à cet accord succéda une mélodie tantôt joyeuse, folle, emportée, tantôt lente et voluptueuse. Hébé, son tambour de basque à la main, écoutait la tête penchée et le sein palpitant. Son petit pied suivait la mesure, ses yeux noirs lançaient des éclairs de plaisir. Soudain, comme emportée malgré elle par la musique excitante qu'elle entendait, elle se cambra vivement en arrière, elle frappa son tambour de basque en l'élevant au-dessus de sa tête, et elle commença une de ces danses dont elle avait pris l'habitude pendant les pérégrinations d'aventureuse de sa jeunesse bohémienne. Jamais les bayadères orientales, jamais les gitanes espagnoles, exécutant leur danse nationale, n'exprimèrent avec un plus délirant emportement la soif effrénée des désirs amoureux, l'ardeur de toutes les voluptés. Tantôt les regards humides d'Hébé coulaient demi-voilés entre la double rangée de ses longs cils. Tantôt le reflet d'une flamme dévorante allumait ses prunelles sombres. Les bras voluptueusement arrondis semblaient presser contre sa gorge émue la chimère de ses désirs fous. Sa bouche entr'ouverte appelait les baisers et dévoilait dans un sourire de bacchante les mailles éblouissantes de ses dents. Cette danse se prolongea pendant quelques minutes. Puis Madame de la Tremblay, haletante, furène sa Maurice, laissa tomber, ou plutôt jeta loin d'elle son tambour de basque, et s'asseyant sur l'un des genoux du marquis d'Avisac, elle passa ses 2 bras autour de son cou et colla ses lèvres sur sa bouche avec une incroyable impétuosité de passion. Raoul n'en savait que trop désormais. Du pommeau de son épée, il brisa la vitre de l'œil de bœuf, et après avoir crié d'une voix de tonnerre « Infâme !», il s'élança du haut de l'échelle, au risque de se briser dans sa chute, et il jeta en dedans d'un coup d'épaule la porte du cabinet. Chapitre 37 Duel sans témoin. Alors, l'épée à la main, pâle de fureur, pareil à l'ange de la vengeance, il se tint debout sur le seuil de cette porte brisée. Déjà, Hébé n'était plus sur les genoux de son amant. Dès le premier cri de Raoul, elle s'était enfuie, avec une épouvante facile à comprendre, dans l'angle le plus reculé du cabinet. Le marquis d'Avisac ne comprit pas tout d'abord la cause de cette brusque et terrible apparition. Il crut que de hardis voleurs venaient de s'introduire dans l'hôtel avec escalade et fraction, et saisissant un pistolet sur la table, il fit feu dans la direction de Raoul. La balle passa à quelques lignes au-dessus de la tête de ce dernier et alla briser dans la bibliothèque un immense et magnifique système planétaire. Monsieur de la Tremblée, nous le savons, avait des pistolets dans ses poches. Il l'oublia ou ne voulut pas en faire usage, et marchant sur le marquis l'épée haute, il lui cria « Ah ça, vous êtes donc un assassin ?»« Et vous, un voleur ?» répondit Monsieur d'Avisac en reculant jusqu'à une chaise sur laquelle était placée son épée, qu'il tira hors du fourreau et avec laquelle il se mit en garde. « Un voleur ?» répéta Raoul. « Misérable ! Mais qui êtes-vous donc ?»« Je suis, et vous le savez bien, je suis le mari de cette femme !» Raoul désignait Hébé. Le marquis d'Avisac connaissait de vue Monsieur de la Tremblée, mais l'incroyable décomposition de ses traits dans ce moment l'avait empêché de le reconnaître. « Monsieur, dit-il avec une politesse froide, j'ai tiré sur vous tout à l'heure, vous prenant pour un bandit contre lequel je devais me défendre. Je vous en fais mes excuses. Quant à la présence de Madame de la Tremblée dans ce logis, je n'entreprendrai point de vous l'expliquer en la justifiant. Après ce que vous avez vu, ce serait difficile. Je ne puis que vous affirmer que je suis entièrement à vos ordres pour toutes les réparations que vous jugerez convenable de me demander. Nous nous reverrons quand vous voudrez et où vous voudrez. Où je voudrais et quand je voudrais, répéta Raoul. Sans doute, monsieur, et je ne puis faire mieux. Eh bien, ici et à l'instant même. Soit, monsieur, mais cette pièce est assez peu commode pour une rencontre de ce genre. Si vous le trouvez bon, nous passerons dans la bibliothèque. Soit, dit Raoul à son tour. Hébé, à demi renversé dans l'angle du cabinet, semblait évanoui. Le marquis d'Avisac passa le premier. Raoul prit position devant la porte brisée en disant au marquis « Si vous aimez votre misérable complice, tuez-moi, monsieur, car si ce n'est pas vous qui sortez vivant du combat qui commence, elle aura à régler avec moi un terrible compte. » Le marquis ne répondit rien, seulement un sourire d'une expression bizarre passa sur ses lèvres pâles. « En garde, monsieur !» cria Raoul. « Mais, dit le marquis tout en croisant le fer, si je vous tue, monsieur, on dira que je vous ai assassiné. Non, répliqua Monsieur de la Tremblée en montrant Jacques, qui, très ému, s'épouvantait à l'idée du péril qu'allait courir son maître. Cet honnête garçon, mon valet, témoignera au besoin qu'il n'en est rien, et que si je succombe, j'ai succombé dans un combat loyal. Monsieur d'Avisac s'inclina en signe d'adhésion. Ce gentilhomme, dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, et dont pour de bonnes raisons nous ne parlerons plus, était le petit-fils de la baronne de Sélius, à laquelle appartenait l'hôtel abandonné. À l'insu même du concierge Picard, il avait fait de cette maison déserte un lieu d'études nocturnes et de rendez-vous galants. Là, il s'occupait de ses travaux occultes et cabalistiques. Là aussi, il conduisait ses maîtresses. Hébé s'était éprise pour sa science autant que pour lui d'un amour aussi violent que passager. Et leurs rendez-vous nocturnes était consacré au travail au moins autant qu'à l'amour, car nous connaissons la passion de la jeune femme pour tout ce qui touchait à la divination et à la magie. Le combat s'engagea de part et d'autre avec une froide impétuosité, qui ne permettait pas de prévoir d'autre dénouement que la mort de l'un des acteurs de cette scène tragique, peut-être de tous les deux. Raoul et Monsieur d'Avisac s'attaquaient sans prononcer une parole, mais avec un acharnement haineux du plus sinistre augure. Ce combat avait lieu dans une demi-obscurité. L'immense bibliothèque n'était éclairée que par la lanterne sourde de Jacques et par l'un des candélabres placés sur la table dans le cabinet magique. L'autre candélabre avait été renversé par un mouvement brusque de Monsieur d'Avisac au moment où il saisissait le pistolet. Tout d'un coup, le marquis s'écria « Touché !» Il venait de sentir la pointe de son arme s'enfoncer dans la chair de Monsieur de la Tremblée.
« Une piqûre d'épingle !» répondit ce dernier.
« Moins que rien !»
Et le combat continua. Ce que Raoul appelait une piqûre d'épingle n'était autre chose qu'un bel et bon coup d'épée dans l'épaule droite. Heureusement, aucun muscle et aucun nerf n'avaient été atteints, mais le sang coulait avec abondance. Raoul n'éprouvait pas la moindre douleur. Seulement, il commençait à sentir un léger affaiblissement dans le bras. Bientôt, il s'aperçut que son poignet s'engourdissait peu à peu et que son épée n'était plus aussi assurée dans sa main.
« Il faut en finir, » pensa-t-il, « et se hâter. Sinon, je suis perdu. »
Laissant aussitôt de côté toutes les règles de l'escrime et aussi celles de la prudence, il raidit son bras et son arme et se précipita sur son adversaire avec une impétuosité furibonde, au risque de se faire percer d'outre en outre. Il y avait 99 chances contre une que c'était là ce qui devait arriver, et pourtant la chance unique l'emporta contre toutes les autres. La pointe de l'épée de Raoul rencontra la gorge du marquis et s'y enfonça jusqu'à la garde en reparaissant derrière le cou. Monsieur d'Avizac ne poussa ni un cri ni un soupir. Il fut littéralement foudroyé et il serait tombé raide et tout d'une pièce sur le parquet si l'épée de Raoul ne l'avait soutenu debout. Monsieur de la Tremblée retira son arme sanglante. L'amant d'épée s'écroula alors comme un arbre scié par la base, et sa tête, heurtant les planches de chêne, rebondit avec un bruit sourd qui faisait mal à entendre. Raoul remit son épée dans le fourreau, sans même l'avoir essuyée, et s'écria « Maintenant, à cette femme !» Puis, malgré la faiblesse croissante qui augmentait d'instant en instant à mesure que son sang coulait, il s'élança dans le cabinet, dont il explora tous les angles d'un seul regard. Le cabinet était vide, et B avait disparu. Raoul ne pouvait en croire ses yeux, et Jacques partageait son étonnement. L'un et l'autre avaient la certitude que la jeune femme n'avait point passé dans la bibliothèque pour s'enfuir. Mais par où était-elle donc sortie, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre au cabinet et pas d'autre porte que celle de la bibliothèque. Jacques prit une des bougies du candélabre et se mit à examiner de très près, et avec un grand soin, cette tapisserie qui représentait la danse macabre et dont les panneaux s'encadraient dans des moulures de chêne noir sculptées. En un certain endroit, un courant d'air vif qui semblait venir de la tapisserie fit vaciller violemment la flamme de sa bougie. Jacques examina de plus près et s'assura facilement de l'existence d'une porte secrète masquée par la moulure de chêne. Cette porte avait été mal refermée. Elle s'ouvrit sans peine lorsque Jacques la tira à lui, et elle laissa voir un étroit escalier, pratiqué dans l'épaisseur de la muraille.
« Monsieur le chevalier !» s'écria Jacques.
« C'est par là que madame a fui. »«
Eh bien, » dit Raoul d'une voix entrecoupée, « prenons le même chemin, suivons-la et... »
Il ne put en dire davantage. Ses forces, complètement épuisées par la perte de son sang, l'abandonnèrent tout à fait. Il tomba sans connaissance dans les bras de Jacques. La situation du jeune valet de chambre était des plus embarrassantes. Que faire de son maître évanoui dans cette maison et près du cadavre de celui qui, sans doute, en avait été le maître? Attendre? Mais chaque instant perdu amenait à sa suite un danger, car si l'un des porteurs de chaise montait pour avertir que l'heure du départ approchait, si le maître et le valet étaient surpris, qu'arriverait-il? Et comment expliquer ce qui s'était passé? Emporter Monsieur de la Tremblée sur ses épaules? Jacques y pensa, mais le pauvre garçon n'était pas de force et n'aurait pas fait 10 pas chargé de ce fardeau écrasant. Tandis que 100 projets contradictoires se heurtaient et se ballottaient dans l'esprit du valet, il prit machinalement le seul bon parti. Il fendit l'habit et la veste de Raoul pour voir la blessure. Il lava cette blessure avec un peu de vin, fit des bandes en déchirant son mouchoir de poche et serra fortement l'épaule afin d'arrêter le sang. Ce premier résultat obtenu, un second plus important encore ne se fit guère attendre. Monsieur de la Tremblay ouvrit les yeux, revint à lui-même, parvint à se mettre debout, et quoique se soutenant à peine, il put, avec l'aide de Jacques, sur le bras duquel il s'appuyait, descendre le grand escalier et traverser le jardin. Il ne fallait point songer à escalader le mur au moyen de l'échelle de corde. Par bonheur, la petite porte s'ouvrait facilement de l'intérieur. Raoul et Jacques se trouvèrent dans la ruelle. Ils avaient mis 10 minutes à peine pour venir.
Il leur fallut plus d'une heure pour parcourir le même chemin, tant Monsieur de la Tremblay se traînait difficilement. Enfin, ils atteignirent l'hôtel. En en franchissant le seuil, Raoul sentit se ranimer toute sa colère, un instant calmé par la faiblesse et la souffrance. Et en même temps que la colère, la force lui revint, une force fébrile et passagère, mais terrible. Il lâcha brusquement le bras de Jacques stupéfait et il s'élança dans son appartement. Toutes les portes étaient ouvertes. Raoul arriva jusqu'à la chambre conjugale. Cette chambre était déserte. Seulement, à coup sûr, Hébé y avait reparu depuis le départ de son mari, car le petit meuble dans lequel elle renfermait ses bijoux avait été brisé avec l'une des barres de fer de la cheminée. Sans aucun doute, la jeune femme, ne trouvant point la clé de ce meuble assez vite au gré de son impatience, avait employé un moyen violent pour s'emparer de ce qui constituait désormais sa seule fortune. Ensuite, elle avait disparu. La blessure de Monsieur de la Tremblay était peu de chose. En 8 jours, il fut sur pied. Tout ce qu'il était possible d'entreprendre pour retrouver la trace de sa femme, il le fit, mais sans succès. Aucun indice ne vint le mettre sur la voie. Vraisemblablement, Hébé avait quitté Paris. Bien des années devaient s'écouler, bien des événements devaient se succéder, avant que le hasard ou la fatalité remissent les deux époux en face l'un de l'autre. Les porteurs de chaises, étonnés de ne point s'entendre appeler à l'heure accoutumée, prirent le parti de monter au premier étage de l'hôtel de Céluce. Nous savons quel spectacle s'offrit à leurs yeux. Épouvantés de ce qu'ils voyaient et tremblants d'être compromis, ils coururent chez le lieutenant de police auquel ils firent leur déclaration. Mais comme ils ignoraient quelle était la jeune femme que chaque nuit ils conduisaient à l'hôtel, comme ils ne savaient point d'où venait cette femme, et que cela seulement aurait pu mettre sur les traces de la vérité, toutes les recherches de la police furent infructueuses. On enterra le marquis d'Avisac, et le voile qui entourait cette étrange aventure ne fut jamais soulevé. Nous reverrons bientôt Hébé.